Europe 1, 15h-16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Combien de fois lui a-t-on servi ? Mieux que personne, il s'est incarné, monsieur tout le monde. Alors que sa complexité ferait merveille dans un polar. Mais comme Gérard Jugnot s'est donné de la noblesse aux qualités des gens modestes, et que l'émotion affleure toujours derrière ses colères, eh bien les comédies populaires faites avec du cœur ne sont pas prêtes de le lâcher. Ainsi joue-t-il le grand-père bourru de Victor, ado à l'imagination débordante, dans la comédie réalisée par l'épatante Marie-Lou Berry, Quand on crie au loup, film pas que pour enfants, puisque les parents vont jubiler. Quand on crie au loup, sort le 3 juillet, Gérard Jugnot est mon invité.
Europe 1.
Bonjour cher Gérard.
Bonjour.
Bon, Gérard Jugnot, franchement, c'est pas fréquent de tourner sous la direction d'un cinéaste qu'on a vu naître. Et là, je parle au propre, pas au figuré.
Oui, dans les deux sens d'ailleurs, parce que je l'ai vu naître aussi le cinéaste quand elle a fait son premier film, Joséphine s'arrondit. Et puis je l'ai filmé à 2 jours, je crois, puisqu'elle m'a dit qu'elle...
Nichée dans les bras de sa maman, Josiane
oui,
Balasco.
Ça, elle possède une VHS que j'ai pas vue d'ailleurs encore. Et quelqu'un la filme avec sa maman et on entend une voix et c'est la mienne. Donc j'ai dû la filmer à 2 jours. Mais je m'en souviens pas.
Voilà. Donc le premier vrai film avec Marie-Lou, en fait, c'est vous qui étiez cinéaste. Vous êtes un peu son oncle, quoi.
Oui. Bon, une sorte de parrain.
Dans le dossier de presse de vos films, Marie-Lou Berry déclare que vous savez à merveille jouer, je reprends ces mots, hein, les connards bourrus qui finissent par inspirer la sympathie. Faut être virtuose tout de même pour rendre aimable un connard bourru, Gérard Jugnot.
Oui, ça peut même être dangereux, parce que c'est pas toujours bien de rendre sympathique des gens qui ne doivent pas l'être. C'est parce que souvent je joue des personnages qui n'ont pas les moyens de leur méchanceté ou de leur bourritude, parce qu'ils ont des failles. Dans ce film particulièrement, le Joseph que je joue est un grand-père un peu cassé, puisqu'il a perdu sa fille et son gendre. Il élève lui tout seul cet enfant très imaginatif et très déluré et très fatigant, sans doute. Il s'est fait virer de sa loge, d'être son métier de concierge. Donc il est fêlé. Alors il peut être bourru, mais je trouve qu'il a des raisons de l'être.
Il a des raisons. Et alors il faut expliquer que, en fait, deux braqueurs en cavale s'introduisent dans l'immeuble. Et Victor, donc votre petit-fils, que plus personne ne croit parce qu'il a un don incroyable pour se mettre dans des imbroglios effrayants, et ben il va devoir se débrouiller seul pour libérer en cascade des otages, dont l'irrésistible et craquante Bérangère Krief. Mmh. Comment vous avez vécu le tournage de ce film qui vraiment fait songer aux meilleures comédies de Philippe de Broca avec une fantaisie rafraîchissante. À la fois, les comédies de De Broca et on pense à la veine de « Maman, j'ai raté l'avion ».
Oui, absolument. Oui. Elle a été bercée par ce cinéma, Marie-Lou, par le cinéma américain. Maman, Goonies, Mathilda, des films que je n'ai pas tous vus d'ailleurs. Mais il y a quand même cet aspect de comédie française.
Ouais.
C'est quand même... oui, c'est un môme qui raconte beaucoup d'histoires, qui a un imaginaire très important parce qu'il est seul, parce qu'il a eu sans doute beaucoup de chagrin. Donc il essaye de se raconter des tas de choses, comme beaucoup de mômes, hein, qui vivent seuls. Et bon, il a appelé 15 fois la police et bon, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est quand on crée au loup,
voilà.
Plus personne ne vient. Donc là, il est dans l'embarras, il va être obligé de lui-même de devenir le Indiana Jones de cet immeuble.
L'Indiana Jones du 16e arrondissement.
Avec des moyens très français, très bricolés. Quoi.
Voilà. Alors sur ce tournage donc, du film intitulé « Quand on crie au loup », Marie-Lou Berry a vécu une triple aventure, Gérard Jugnot. Parce que, bien sûr, en tant que réalisateur, elle avait toutes les responsabilités les plateaux. Elle incarne, mais je parle du moment où elle a tourné le personnage le plus disjoncté, archigrimé et malmené par le scénario.
Oui.
Et elle vivait sa toute première grossesse, Marie-Lou, enceinte de 7 mois dans la vie vraie. Mmh. Ça fait quand même beaucoup pour une seule et même personne.
Oui. Ben, je veux dire que j'étais un peu inquiet d'ailleurs. Mais oui, elle a accouché d'un film et d'un enfant. Les deux sont très réussis. oui, c'est... Quand elle m'a proposé le film, moi je trouvais le scénario très sympathique. Et puis, c'est rare les films pour la famille. Hein.
Ouais,
parce que souvent, c'est très cloisonné.
C'est ça.
Et c'est ce qui est formidable dans ces films-là, c'est que c'est souvent des enfants assez petits, donc on les emmène et on communique avec eux, que ce soit les grands-parents ou les parents. Donc ça joue vraiment ce rôle comme ça de social et affectif, de se retrouver en famille pour rigoler. Et donc c'est assez... Je suis assez charmé par ça. Et surtout, elle l'a réussi magnifiquement.
Mais alors, revenons justement à elle, parce que vous avez eu la formule parfaite, vous avez dit elle a accouché en même temps d'un film et d'un bébé. 7 mois de grossesse, c'est pas anodin, Gérard Jugnot. Elle a été à bloc pendant toute l'aventure du tournage, Marie-Lou ?
Oui, moi j'étais très inquiet. Elle me propose le film, donc on fait une lecture pour voir si tout allait bien. Et je lui dis, ah tiens, parce qu'elle passe un petit peu, elle fait un peu le yo-yo comme ça à un moment. Elle me dit, ah tiens, là, t'as pris un petit peu de poids. Elle me dit, oui, mais en fait, je suis enceinte de 7 mois. Et je lui dis, mais attends, on tourne dans 3 semaines. C'est bien raisonnable. Sa mère était un peu inquiète aussi. Et bien, finalement, non, parce qu'elle a une énergie absolument formidable. Et elle a mené ça elle dit même que ça l'a aidée dans les derniers mois, qui sont souvent un peu anxiogènes, on se dit, qu'est-ce qui va se passer. Oui. Là, elle était tellement occupée par son truc. Et en plus, elle s'est écrit un personnage où elle a beaucoup reçu.
N'est-ce pas?
Ah oui.
Bon, on va pas en dire davantage. Il faudra mercredi aller en salle pour découvrir Quand on crie au loup. Mais franchement, c'est exactement ce que vous dites. Alors, cher Gérard Jugnot, je vous ai parfois entendu déclarer, en fait, le cinéma, pour moi, c'est la vie en mieux. C'est la vie en plus beau, plus grand, plus coloré, plus intense. Et vous rajoutez, je suis sûrement meilleur père ou grand-père à l'écran que je ne le suis dans la vie vraie. C'est par coquetterie que vous dites ça ? Ou bien c'est vrai ? Vous êtes meilleur grand-père sur un écran de cinéma que vous ne savez l'être dans la vraie vie ?
Il y a une part de coquetterie, mais c'est vrai que parfois, quand j'étais plus jeune et que mon fils était petit, que je l'avais, quand il était avec moi, parce que je suis séparé de sa maman, bien sûr, comme tous les crétins. Et il m'arrivait parfois de sortir d'un tournage où j'avais eu une patience d'ange pour diriger des gens, souvent des enfants d'ailleurs, pour des pubs par exemple.
Ouais.
Je passais 10 heures à pas m'énerver et j'arrivais et je perdais patience en 10 minutes parce qu'il voulait pas manger ce que je lui avais mis dans son assiette. Donc c'est en ça que je me dis... Oui, c'est de la coquetterie, mais c'est aussi un peu une certaine vérité. Mais je crois que tout le monde est un peu comme ça. Le nombre d'instituteurs qui sont de très mauvais parents, pas mauvais, mais qui n'ont aucune patience.
Pour transmettre, alors qu'ils sont parfaits derrière leur pupitre, leur bureau.
Oui, c'est le paradoxe. Mais je suis aussi meilleur homme. Vous savez, quand on écrit un film, on met une part de soi. Et puis on essaie de... Moi, j'ai souvent fait des personnages qui avaient une petite mentalité, qui évoluaient, qui devenaient plutôt mieux, plutôt héroïques. Donc voilà, je ne sais pas du tout si j'aurais eu le courage de Batignolles ou si j'avais eu la patience ou le talent de Clément Mathieu dans Les Choristes.
Ouais.
C'est l'avantage du cinéma.
Il en a beaucoup davantage le cinéma et c'est ce qu'on va évoquer au cours de cette balade épatante cet après-midi en compagnie de Gérard Jugnot qu'on retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » sur Europe 1. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit l'acteur Gérard Jugnot à l'occasion de son actu cinématographique.
Dans la veine de « Maman, j'ai raté l'avion » sort mercredi une comédie à la française réalisée par la très douée Marie-Lou Berry. Son titre, « Quand on crie au loup » et Gérard Jugnot qui participe à l'aventure, est mon invité. Alors cher Gérard, pourquoi dites-vous que la jeunesse vous est venue sur le tard ?
Moi j'ai trouvé cette formule qui est une formule, mais c'est pas faux du tout parce qu'avec mes camarades du Splendide, on a beaucoup travaillé. On était très anxieux et très sérieux dans notre volonté de faire des films, des pièces, d'être dans ce métier. Donc on a beaucoup travaillé. Alors bien sûr, on rigolait. Il y avait beaucoup de dérision. On a eu des crises de rire formidables. Mais on n'a jamais eu de légèreté. On a été toujours très professionnel, entre guillemets. Même quand j'ai rencontré Christian en 5e ou en 4e, Thierry avait écrit un scénario. Moi, j'avais fait un petit film en 8 mm. Et Christian me dit tiens, il faut que je te présente un scénariste, puisque tu es metteur en scène.
Enfin, vous parliez ainsi à l'âge de 12 ans.
Oui, en gros, enfin, on avait 13 ans ou 14 ans. Enfin, c'était grotesque, mais on était déjà tout à fait sérieux dans notre travail, même si on passait notre temps à déconner et à chahuter. Donc
on peut pas être insouciant quand on a l'obsession de réussir.
Oui, non, on n'avait pas d'insouciance, mais pas du tout, et c'était un poids, parce qu'on avait même une inquiétude forte. On venait d'un milieu qui n'était pas de milieu artistique, donc on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, et il fallait absolument réussir, ne serait-ce que pour prouver à nos parents respectifs qu'on pouvait vivre de ce métier.
Donc, mais vous auriez supporté, Gérard Jugnot, de ne pas échapper au milieu et à la vie pour lesquelles vous étiez programmé, vous dont le papa avait une entreprise de plomberie ?
Oui, je crois que... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir envie de faire autre chose et d'avoir une passion. Je ne sais pas quelle aurait été ma vie si je n'avais pas rencontré mes camarades au lycée Pasteur, mais je pense
alors,
que...
Alors justement, il y a une chose amusante que j'aimerais qu'on évoque, parce que franchement, parfois, ça tient à si peu un destin. Vous dites que si vous aviez déménagé un an plus tard, je dis bien juste une petite année plus tard, de Vincennes à Puteaux, c'est toute votre vie qui aurait été différente. Pas de lycée Pasteur à Neuilly, pas de bande du Splendide, pas de carrière d'acteur qui, à 66 ans, aujourd'hui, vous fait vous lever comme au premier jour, parce que la passion, elle est toujours là. Ça s'est joué, en fait, sur une petite année.
Absolument, oui.
Parce que le lycée Pasteur n'acceptait absolument plus aucun élève venant de Puteaux un an plus tard.
Oui, c'est par des histoires de région, et puis aussi, je pense, de... Puteaux, c'était un peu les prolétaires, donc Neuilly voulait un petit peu garder sa bourgeoisie. Et c'est vrai aussi que c'est grâce aussi à Puteaux, parce que moi je raconte dans ce bouquin là, une époque formidable, que finalement je suis parti de Vincennes, où j'étais très moyen, et je suis arrivé à Puteaux où le niveau était très mauvais, et j'ai eu un prix d'honneur, ce qui ne m'est jamais pu arriver par la suite. Et donc du coup, grâce à ce prix d'honneur, j'ai pu rentrer au Splendide.
Oui, vous voyez. Voilà. Alors, vous dites aussi que l'ermite Clavier et Blanc était doué pour les études et aurait pu faire beaucoup d'autres choses. Pas vous ?
Non. Non, c'est vrai que j'ai eu la chance. En fait, c'était aussi une chance de ne savoir faire qu'une chose, ou très peu, en tout cas d'être doué dans peu de choses. Parce que
oui, mais de la faire si bien.
Non, mais Thierry, l'ermite, il aurait pu être un grand savant, un grand médecin. D'ailleurs, il fait plein d'émissions de médecine. Il est toujours passionné par la médecine.
Par les mathématiques supérieures.
Par l'informatique, par plein de choses. Christian avait préparé Sciences Po, il aurait pu faire une carrière politique. Marianne aimait beaucoup de la littérature. Blanc aimait la musique et la littérature.
Mais vous étiez peut-être le plus déterminé, le plus fougueux de tous. Celui qui venait en permanence leur redonner du carburant, c'est ça, pour les entraîner.
Oui, parce qu'il n'y avait que ça. Je ne voulais pas m'en trouver tout seul, donc je les ai un peu entraînés. Je me disais, allez, on y va. Parce que moi, je ne peux pas faire des maths, je ne peux pas faire de la littérature, je ne peux pas faire de la musique. Il n'y a que faire le clown sur une scène que je sais faire.
Mais vous étiez aussi le plus cinéphile de toute la bande, Gérard Jugnot. Oui. Vous qui alliez voir tous les films de Norman McLaren, Godard Rivette et Torrescola, enfin, le plus cinéphile de la bande, c'était vous.
Oui, j'allais voir aussi un peu par snobisme tout le cinéma, mais j'allais aussi voir Buster Keaton, Chaplin et Black Edwards. Donc oui, j'ai eu la chance au scout, quand j'étais chez Boy Scout, ça c'était indépendant de mes camarades du Splendide, de rencontrer Jean-François Renard qui était mon chef, et qui lui était un grand cinéphile, encore plus pointu que pointu, et qui m'a fait découvrir plein de choses, et avec qui j'ai fait aussi des veillées, on faisait des sketchs, j'ai commencé à avoir le plaisir comme ça d'être sur une scène, j'ai très vite découvert ça chez les scouts, quoi. Et donc après, j'ai passé ma vie à voir des films, à les regarder, à en faire. D'ailleurs, j'ai fait plein de petits films regardables, muets,
en
double, oui, c'est en double 8, il fallait couper, coller, il n'y avait pas de son, enfin c'était une
Vous les avez toujours, parce qu'il paraît que dans la bande du Splendide, on vous appelle l'archiviste.
Oui, j'ai encore... Enfin, les films sont cassés, je les ai un peu numérisés, mais enfin, c'est aucun intérêt.
C'est juste de l'affect sur pellicule, c'est ça.
Si dans Plonfinger, il y a 2-3 gags qui persistent, mais sinon le reste, c'est vraiment très très moyen.
Mais alors pourquoi vos proches, Gérard Jugnot, disent que vous êtes tout sauf un clown? Vous êtes en fait un cérébral angoissé. C'est ainsi qu'on vous définit.
Oui, enfin...
Ça vous va, depuis plus de 40 ans, d'être pris pour ce Français moyen que vous incarnez si bien, trop bien, peut-être ?
C'est pas un Français moyen, c'est un Français ordinaire, mais c'est...
Vous aimez pas la formule Français moyen, oui, vous dites que c'est une création de statisticien, il n'existe pas, il est privé de destin, le Français moyen.
Ben oui, ça veut rien dire. En plus, ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai eu cette étiquette, alors que par exemple Jacques Villeray, qui a fait la même carrière, sur les Français moyens, dits moyens, on ne lui disait pas ça. Donc c'est peut-être parce que moi j'en ai fait une défense illustration plus précise et plus profonde dans mes propres films. Mais oui, je pense qu'on est un instrument et qu'on doit jouer de cet instrument. Alors, si j'avais eu le physique d'Alain Delon, j'aurais fait une autre carrière. Mais peut-être pas aussi bonne que lui, en tout cas.
Mais peut-être le physique a-t-il aussi choisi pour vous ? Votre physique.
Oui, on fait avec ce qu'on a. Surtout, il n'y a pas que le physique, il y a le tempérament, la manière de se déplacer, de jouer, une voix, ce qu'on a dans la tête, les soucis, sa timidité. je crois que c'est, on fait une espèce de, on fait avec, quoi. Et de temps en temps, bah, on s'en sort.
Vous dites, ma folie, je la garde pour la scène et devant la caméra. Vous êtes quelqu'un d'assez raisonnable dans la vie?
Oui, terriblement raisonnable.
C'est vrai?
Oui, oui, je le suis. Je suis trop raisonnable. D'ailleurs, j'ai terminé la pièce d'Isabelle Mergault qui s'appelait La raison d'aimer. On me demandait, c'était un dilemme entre la raison et le cœur. Et j'ai eu cette formule, genre, j'ai un cœur raisonnable. C'est-à-dire que je suis très
affectif. Vous n'êtes pas un homme de passion ?
Très affectif.
Dans le lâcher-prise ?
J'ai beaucoup de mal, ça. J'ai beaucoup de mal au lâcher-prise. Et c'est pour ça que je suis heureux sur une scène, parce que justement, on peut lâcher prise. Mais dans la vie, je suis un peu coincé du Luc, parfois.
On retrouve tout de suite Gérard Jugnot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Jusqu'à 16h sur Europe 1, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec l'acteur Gérard Jugnot.
Gérard Jugnot qui est à l'affiche de la nouvelle comédie réalisée par Marie-Lou Berry, Quand on crie au loup, qui sort mercredi. Et cet après-midi, mon invité. Cher Gérard, j'ai appris une chose très étonnante et assez rarement dite concernant le début de l'aventure du Splendide. Pour faire un théâtre d'un entrepôt au départ de Mûrisserie de Banane, rue des Lombards, à Paris, la fine équipe, formée donc par Clavian, Blanc, l'Ermite et vous, a emprunté de l'argent, beaucoup d'argent. Et ce sont Julien Clerc, Coluche, Patrick Devers et Jean Rochefort qui vous ont prêté cet argent. Ça, c'est inattendu.
Oui, une partie. Coluche, Devers, je crois, Miu-Miu et Julien, bon, c'était des gens qu'on voyait beaucoup. Mais Jean...
Mais Jean Rochefort.
Oui, mais Jean, il nous avait à la bonne. Il était venu nous voir dans notre premier café-théâtre et il avait beaucoup aimé la manière dont on jouait, ce qu'on interprétait. Il trouvait ça très... Il y avait ses mots comme ça. Il aimait beaucoup cette sincérité, ça le faisait rire.
Donc c'est quelqu'un qui se déplaçait dans les cafés-théâtres pour découvrir les nouveaux talents.
Oui, on était très très heureux d'ailleurs quand il y avait quelqu'un de connu. La première personne qui est venue nous voir dans notre petit café-théâtre à l'Odéon, c'était un truc pourri, c'était Nougaro. Et on a été extrêmement touchés que ce garçon, et qui avait été emmené je ne sais pas par qui, viennent nous voir, alors que vraiment personne, on devait avoir 12 spectateurs tous les soirs, quoi. Et ça, c'est toujours un petit peu... Alors, bon, il faut aussi remercier les 12 qui sont venus et qui s'appelaient pas Nougaro, mais c'était quand même, quand on avait vu sur notre petit siège, quand on jouait le Père Noël, ou non, je crois que c'était Amour Coquillage, que Ventura,
il a mis son gros
derrière.
Lino Ventura.
Sur nos petits bancs, on était très, très impressionnés.
Et pas déconcentrés? Jouer devant Ventura.
Oui, c'est vrai qu'on jouait un peu pour lui, quoi. Ce qui n'est pas bien. Mais on était tous en train de regarder qu'est-ce qu'il dit.
Est-ce qu'il riait?
Oui, c'était assez formidable. Ça, c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on a fait un peu de chemin et qu'on a acquis quelques galons, quoi.
Bien sûr. J'en reviens à cet emprunt d'une grosse somme d'argent, donc, à des personnalités comme Julien Clerc, Coluche, Patrick Devers, Miu Miu, Jean Rochefort. J'aimerais bien savoir lequel de la bande a été chargée de les convaincre de prêter de l'argent pour la folle aventure de la construction d'un théâtre.
Ben d'abord, ce n'était pas des sommes considérables.
Mais la démarche, quand même.
Pour nous, c'était énorme.
Oser aller demander de l'argent. Comment on s'y prend ? Qui était chargé de ça ?
C'est évident que ce n'est pas moi, parce que moi, j'avais... L'avantage, c'est que Thierry ou Christian venaient d'un milieu plus aisé que Michel Blanc ou Josiane, ou que moi. Donc, ils avaient moins peur de se retrouver à la rue directement. Et puis, je crois que c'est la force du groupe, c'est que moi j'étais plus sur le spectacle, sur le bricolage, sur le plâtre, le bois, la menuiserie, tout ça, et eux, ils se sont chargés de beaucoup de démarches administratives, de comptabilité, d'aller chercher, c'était très très fatigant tout ça.
Mais alors, Gérard Jugnot, ce père dont vous dites qu'il était en fait au départ désespéré par votre vocation de comédien, il a quand même mis à contribution sa petite entreprise de plomberie pour terminer tous les travaux dont vous veniez pas à bout, rue des Lombards.
Il fallait qu'on détourne toute une canalisation et...
Et vous risquiez d'inonder la rue des Lombards.
Cela dit, là, maintenant, c'était il y a 40 ans, donc, mais c'était un peu du détournement de fonds social, puisqu'il avait travaillé des gens de son entreprise. Enfin, c'est pas son entreprise, il était juste directeur, c'était pas le patron. Mais donc, il y a eu 2-3 personnes qui sont venues nous donner un coup de main et qui étaient sans doute payées. Enfin, c'était une manière de sponsoriser
la vocation du fiston. Quoi.
Mais c'est, parce que je crois qu'il a été stupéfait quand il a vu le local. Je lui ai montré le local qu'on avait trouvé. il était effondré parce qu'il voyait bien l'ampleur des travaux qu'il fallait faire. Et donc là, il nous a un peu prêté des outils et puis après, un peu de main-d'œuvre et de qualification pour faire des choses de ce qui était tout à l'égout, sanitaire, toilette.
Et il était là le soir de la première représentation.
Je crois, oui.
Oui, fier.
Oui. Ben non, je suis pas sûr qu'il soit venu le premier, parce que, et il a eu raison, parce que c'était nul. La première, on avait tellement passé de temps à travailler, à fabriquer le théâtre, qu'on avait répété assez peu, donc il a fallu qu'on refasse tout, qu'on parte à zéro.
Alors, vous ne sortiez pas, l'équipe du Splendid, vous ne sortiez pas du conservatoire, vous n'aviez pas de directeur artistique, pas de scénographe, et aucun plan de carrière, si ce n'est le fait de réussir à transmettre au public. Et vous partagez tout ce que vous arriviez à gagner au théâtre, alors que le Splendid, c'était quand même un groupe sans leader, certes, mais formé d'individualités qui rêvaient toutes, peut-être secrètement, de carrière solo. Jamais vous ne vous êtes fâché. C'est miraculeux, ça.
Oui. Ouais, c'est vrai, quand on y pense, c'est assez miraculeux. Il y a eu des petites dents qu'on avait les uns sur les autres, mais en fait, on a mis de côté tous nos soucis, mais cela dit, ça a duré que 10 ans. Hein. Après, chacun a voulu dire.
Mais
chacun a voulu dire.
Que 10 ans, et ça peut être une éternité quand il commence à y avoir des agacements.
Oui, il n'y a pas eu de tirage de couverture, il n'y a pas eu de. Non, non, c'était assez étonnant d'ailleurs. On avait un dénominateur commun qui était le plus petit d'ailleurs, mais qui était sur la dérision. Et, et puis on ne dérogeait pas à certaines règles. Qu'est-elle, on partage tout, on essaie d'avoir des rôles identiques, personne ne fait un coup pourri derrière dans le dos de quelqu'un, il n'y a pas de chef, on décide tout à 4,
en fait,
5.
C'est vous qui appliquiez le mieux les préceptes de mai 68.
Oui, absolument, il y avait le côté, on prend en main notre outil de travail.
Voilà.
Alors ça a ses limites, parce qu'au bout d'un moment, on en a plein le cul, mais ça a fait aussi la force du truc depuis, quoi. Mais oui, c'était vraiment un collectif d'individualistes.
Alors Gérard Jugnot, quand le Père Noël est une ordure passe à la télé, bon, la France entière en récite les répliques cultes, comme d'ailleurs pour les tontons flagueurs. Or, à sa sortie en salle, le Père Noël est une ordure a été un succès, on va dire, modeste, mais dont les audiences n'ont cessé de grandir à chaque rediffusion. Donc, les Bronzés et le Père Noël sont devenus des classiques, au même titre que La Grande Vadrouille ou Le Corgneau. Comment expliquez-vous que ces films-là ne meurent pas, alors que rien ne se débode plus vite que le rire ?
Oui, ça, je sais pas pourquoi les films sont des films de garde comme Le Vin de Garde. C'est peut-être, y a peut-être un peu de talent. Et puis, c'est de la chance. C'est de la chance. Peut-être aussi que comme on les écrivait à 6, c'était assez concentré. On jetait beaucoup. Hein, il y avait beaucoup. C'était trié sur le volet, beaucoup. Et ensuite, je crois aussi qu'une chance, c'est que ces films n'étaient pas dans le. Comment dire, c'est ce que j'ai essayé d'analyser ça l'autre fois, c'était pas dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il y avait au ski ou en maillot de bain, il n'y avait pas de mobilier urbain, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de mode vestimentaire. Bon, les anoraks, ils ont évolué, mais pas énormément, les maillots de bain aussi. Donc tout ça fait que ça se démode assez peu. Quant au Père Noël, c'est des personnages tellement...
tellement burlesques,
oui, tellement
en dehors de la réalité.
Oui. C'est comme Papy. Papy fait de la résistance, ça ne bouge pas parce que ça se passait en 40 et après...
Mais ça, ça a fait directement plus de 8 millions d'entrées en salle.
Non, ça a très bien marché. Oui, la sortie, c'était Fechter qui avait mis le paquet.
Mais c'était le dernier avec toute l'équipe.
Oui. Et encore, on était tous dedans.
De cette période-là,
avec certains, Thierry avait un tout petit rôle, Josiane aussi, Michel aussi. Donc c'était plus déjà un film de Christian et Jean-Marie Poiret.
Qu'un film du Splendid.
Oui.
On retrouve tout de suite Gérard Jugnot, c'est avec lui qu'on se balade cet après-midi. Et c'est formidable.
Europe 1.
Il est l'un des ambassadeurs de la fête du cinéma cette année et c'est l'invité d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et ça se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1.
Quand on crie au loup, film pour enfants, mais pas que, sort en salle le 3 juillet, mercredi prochain. Gérard Jugnot y campe le grand-père d'un ado à l'imagination débordante qui va devoir résoudre seul les délires de cavale de deux braqueurs pas doués du tout. Et Gérard Jugnot est mon invité. Alors, cher Gérard, jouer la comédie, c'est faire croire qu'on pense ce qu'on dit, même si par conviction, on pense le contraire. Il y a tout de même un lien à peine masqué avec le mensonge. Mais de magnifiques menteurs, dans la vie vraie, ne font pas forcément de grands comédiens. Pourquoi ?
Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'assez magique dans le jeu. Et... Par exemple, vous savez, la vérité, c'est la différence entre le style direct et le style indirect.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le style indirect, c'est dire « Alors je lui ai dit, mais va-t'en, tu m'emmerdes. » Ça, c'est le style indirect. Et le style direct, c'est « Je lui ai dit, va-t'en, tu m'emmerdes. » C'est pas du tout la même chose. Et le style indirect, c'est facile parce qu'on ne prend pas de risque, on ne se jette pas à l'eau. Alors que le style direct, on est obligé de prendre un risque et de se jeter à l'eau et d'être autrement que dans la vie, quoi. Et d'être autre que celui qui raconte, qui dit deux points.
Voilà, il y a un investissement infiniment plus grand.
Et ça me fait penser à ce mot de Tilla Shelton, notre professeur, qui était un professeur magnifique, en dehors d'être une actrice époustouflante. C'était ça, se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau, il faut prendre le risque d'être faux, c'est pas simple.
Mais enfin, c'est quand même pas qu'une question de trac, parce que bon, dans la vie, on parle toujours juste, tout le monde parle juste, et puis, parfois...
Oui, il y a des gens qui parlent faux, mais qui, comme c'est leur sincérité, c'est leur vérité à eux. Et même, il y a des acteurs qui jouent Depardieu, souvent, il y a une sorte de musique qui est à lui.
Ouais.
Et qui n'est pas à la note tout à fait juste, mais qui est sa vérité à lui, comme certains acteurs, comme, bon, après, je ne suis pas sûr que ça passerait, mais Jouvet avait une manière de parler étonnante, Gérard Philippe, peut-être
alors,
que c'est un peu démodé.
Il parlait juste ou il parlait faux?
Il parlait avec sa justesse à lui et sa vérité à lui, quoi. Vous savez, c'est la grande différence entre ce qui est incarné et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un match de foot, vous hurlez et vous vous cassez la voix. Si vous hurlez dans votre couple ou dans la vie, vous cassez rarement la voix parce que c'est incarné. C'est pas un cri d'une manif, c'est un cri qui vient de l'intérieur, qui est un truc que vous avez pensé, que vous avez... c'est ce qu'on appelle incarné. Alors bon, après... Moi, je ne suis pas professeur à l'art dramatique.
Eh bien, justement, parlons, tiens, de ce que vous faisait faire Tilla Shelton, qui, elle, était professeure. Vous n'avez pas fait le conservatoire, Gérard Jugnot, mais vous avez suivi ses cours. C'était une immense comédienne, Tilla Shelton. Elle vous faisait travailler Shakespeare, elle vous faisait travailler des plaidoiries, des oraisons funèbres. Jamais des comédies. Pourquoi ?
Ben non, parce qu'elle disait qu'on avait cette note-là et qu'il fallait qu'on... Toujours, quand on a le blanc, il faut travailler le noir. Et elle a tout à fait raison. Je trouve que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les comédies dramatiques où il y a du rire et du drame, parce que je trouve que les uns et les autres se nourrissent mutuellement. Donc,
mais alors, l'efficacité du jeu comique, souvent on dit qu'il tient essentiellement sur le rythme. Le rythme, c'est une question de nature, on l'a ou on ne l'a pas?
Oui, un petit peu, il y a le rythme, mais surtout, il y a la sincérité. Quoi. Il y a une sincérité de comédie. C'est très étrange, parce qu'il y a des tas d'acteurs très sincères qui sont très mauvais dans la comédie. Le rire, ça repose toujours sur le drame. Comme moi, je dis souvent que la comédie, c'est du drame qui s'arrête à temps, quoi. Parce qu'on ne rit que de choses affreuses. Vous savez, moi, je dis toujours, la comédie, c'est... Vous vous mettez dans une salle, vous regardez un mec qui en prend plein la tronche pendant une heure et demie, et vous êtes là, dans votre fauteuil, climatisé, et vous dites, chouette, c'est pas à moi que c'est arrivé. Mais ça peut m'arriver. Et c'est pour ça que vous avez envie de rire, parce que c'est une manière de... Comme tout à l'heure, vous me parliez des connards ronchons que je joue, c'est peut-être aussi une manière... pour moi, de me libérer de mon côté ronchon et connard que j'ai en moi, comme beaucoup de gens. C'est assez mystérieux et moi, j'aime le rire, j'aime la comédie, parce que ça tient de l'alchimie, c'est-à-dire qu'on transforme de la matière affreuse, le drame, les emmerdes, la noirceur, les défauts, et on en fait quelque chose qui fait rire les gens, et donc une sorte de on fait du plaisir.
Alors, passons de la comédie à l'émotion. Plus votre personnage a pris de l'âge et de l'épaisseur, Gérard Jugnot, plus vous avez joué sur le registre de l'émotion, aussi bien comme réalisateur qu'en tant qu'acteur. Sacha Guitry disait, quand on lit le journal, même avec des nouvelles attristantes, on n'est pas forcément ému au cinéma. On sait parfaitement que tout est faux et on est ému. Pourquoi ?
Ah oui, parce que c'est le référent.
Parce le que, cinéma parce que est c'est un référent.
Parce que c'est incarné, parce qu'on se projette et ça permet... justement de se projeter plus facilement qu'en lisant le journal, parce que sinon on se suicide. Parce que c'est incarné, donc on est avec cette personne, on s'identifie. Et c'est vrai que c'est très étrange.
Mais alors si le cinéma, qui n'est pas la vérité, nous touche parfois plus que la vérité, elle est lourde, votre responsabilité à vous, les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes.
Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce qu'on raconte dans les films, je trouve, moi. J'ai toujours essayé de faire attention d'entendre des rires que j'aimais entendre et pas ceux que je n'aimais pas entendre. Mais il y a une phrase de Cocteau qui disait « Le poète est un menteur qui dit la vérité ». Quand j'étais môme, j'avais ça. J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là » Et puis j'ai compris par la suite, justement, que c'est en mentant qu'on touche plus la vérité des choses. Vous savez, je prends toujours cet exemple. Avec mon fils, j'avais fait un film qui s'appelle Marthe, où on me coupait une jambe parce que j'ai été amputé d'une jambe en 14-18 et je mourais d'une très jolie gangrène gazeuse, enfin un truc atroce. Un film très, très dramatique, d'ailleurs j'ai eu une nomination au César. Comme quoi, c'est pas en rigolant qu'on a ça. Et donc je me souviens de la projection, mon fils était là et j'étais assez mal quand je me voyais mourir. Déjà, moi, je ne plaisais pas plus que ça. Et lui était assez mal et pourtant il savait très bien qu'on ne m'avait pas coupé la jambe et que j'étais derrière lui en pleine forme. Mais, malgré tout, il savait très bien que je vais mourir un jour. Donc, c'est cette fausseté, c'est ce mensonge qui vous touche.
Qui envoie des signaux.
Qui vous touche profondément. C'est le référent qui vous donne l'émotion. Regardez, quand il était petit, je l'emmenais voir Guignol, il hurlait de peur. Je lui dis, mais attends, c'est des petites poupées. Je l'emmenais derrière, je voyais le mec, il avait encore plus peur. Donc, c'est quand même fou d'avoir peur parce que c'est des poupées. Mais on a peur parce que ces poupées vous racontent une vérité. Donc c'est un mensonge qui vous raconte cette vérité.
Vous venez de parler de nomination au César. Gérard Jugnot, entre les Césars et les Molières, je crois avoir bien compté, vous avez été nommé 7 fois, n'est-ce pas ?
Oui, peut-être.
7 fois, mais 7 fois sans jamais monter sur scène pour prendre le trophée. Je pense à Jean-Pierre Marielle, qui comme vous a été nommé 7 fois sans jamais remporter la statuette. Il y a des carrières comme ça qui se font de manière éblouissante à la barbe du métier.
C'est pas la barbe, parce que, si vous voulez, moi j'ai des médailles, hein, j'ai les arts et lettres, la légende d'honneur,
oui,
le mérite, tout ça.
Et puis le public vous en a donné plein.
Oui,
voilà.
Oui. Mais après, les Césars, c'est comme disait Marielle, c'est une tombola. Et puis, il faut être dans le film nominable. Donc, il ne faut pas être dans un film qui n'a pas marché. Vous pouvez être formidable dans une comédie, ça c'est cuit. Voilà. Et puis, il suffit que l'année où vous êtes, vous êtes nommé, il y en a 5. Moi, je crois que j'étais nommé avec l'année où Depardieu était dans Cyrano. Bon,
ouais,
on n'achète pas le smoking, c'est pas la peine. Donc, voilà. Ça m'est arrivé, puis ça m'arrivera peut-être ou pas. Ça me touchait à une époque. Mais maintenant, ça, comme dit l'autre, ça m'en touche une, sans.
On continue de faire l'école buissonnière cet après-midi en compagnie de Gérard Jugnot. On fait une pause très courte. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Comme chaque week-end de 15h à 16h, Isabelle Morizet retrace le parcours d'une personnalité. Cet après-midi, c'est Gérard Jugnot qui se raconte sur Europe 1. Il est avec nous jusqu'à 16h.
Gérard Jugnot, au début de votre carrière, votre père était inquiet parce qu'il ne connaissait pas le métier de comédien. Vous, au début de la carrière de votre fils, Arthur, vous étiez inquiet parce que vous connaissiez trop bien ce métier. Mmh. Est-ce que c'est pour ça, au départ, qu'Arthur a brouillé les pistes en faisant le magicien ?
Oh, je ne sais pas. En tout cas, il a bien joué, ça. Parce qu'il s'est engagé dans ce métier en utilisant et en empruntant des voix que je n'avais pas empruntées. Donc, c'était une manière pour lui de se démarquer très bien. Il a commencé par la magie, par la mise en scène de théâtre. Et puis, bon, après, il a fait de l'image et de la fiction. Mais fondamentalement, son ADN, c'est le théâtre. Il a, il est maintenant, avec ses copains, ils ont 2 théâtres, le Bélier à Avignon et les Béliers à Paris. Moi, je lui ai refilé mes parts de la Renaissance. Donc, maintenant, avec le fils Spielmaker, il dirige la Renaissance. Et c'est un très beau théâtre. Il va le faire vraiment
vivre
magnifiquement. Non, il adore être taulier, et c'est un truc que moi j'ai pas aimé beaucoup faire, quoi. Mais même si maintenant il est un peu frustré parce qu'il tourne pas assez, puisqu'il est tout le temps sur les scènes. Et...
Mais alors, est-ce que ce serait le début d'une dynastie mieux encore que les Brasseurs ? Parce que là, vous êtes en train de nous dire que Arthur, effectivement, a des activités autour du domaine artistique tellement variées, et en plus, il dirige des théâtres.
Oui, enfin, il y en a beaucoup, hein.
Pas tant que ça.
Il y a beaucoup de fils d'eux et de filles d'eux. Marie-Lou en est un exemple.
Oui.
C'est compliqué d'être fils d'eux. Enfin, c'est toujours compliqué d'être le fils de quelqu'un. C'était pas simple d'être le fils d'André Jugnot. Mais c'est vrai que dans ce métier, c'est plus facile d'entrer.
Ouais.
Mais
pour décrocher des rendez-vous, quand même, ça aide.
On vous attend aussi. avec un plus gros fusil que si vous êtes un inconnu. Mais si, au départ, quand je me souviens, vous êtes le fils d'eux, vous avez deux jours de tournage. Moi, quand j'avais deux jours de tournage, tout le monde s'en foutait. Maintenant, si vous appelez Berry, Junior ou l'ermite ou je sais pas qui, et vous êtes immédiatement repéré alors que c'est un tout petit truc. C'est compliqué aussi.
En fait, Gérard, vous dites que le fait que Arthur exerce le même métier que vous vous a énormément rapproché. Est-ce que il a un œil, une oreille, un jugement dont vous tenez compte désormais? Est-ce que vous échangez beaucoup en ce qui concerne vos projets réciproques?
Oui, pas toujours, mais il est évident que lui, il s'y connaît plus que moi dans tout ce qui est théâtre. Après, on est d'accord ou pas d'accord sur certains choix qu'il a fait ou que je peux faire, moi.
Ouais.
Mais en tout cas, il est vrai qu'on se comprend mieux, on se connaît. J'ai pas cet éloignement que j'avais avec mon père qui ne comprenait pas du tout pourquoi je pouvais monter sur une scène et prendre du plaisir.
Alors, je ne sais pas si votre papa est toujours en vie, mais même à la fin de son existence, s'il devait avoir fait la paix avec sa colère, il était fier de son fils.
Il était fier, mais il ne comprenait pas plus qu'avant.
Mais en vous voyant si heureux.
Oui, c'est étrange. Enfin, oui, il voyait que j'étais heureux, mais il se disait, attention, ça ne va peut-être pas durer, méfie-toi. Non, il avait le doute.
Chevillé au corps.
Ce qui est formidable par rapport à mon fils, c'est qu'on a une connivence, on se comprend, on connaît les choses, on a les mêmes centres de plaisir. Je sais que quand il est heureux, je sais quand je le suis. Enfin, il sait tout ça, quoi.
Alors, justement, parlons théâtre, Gérard Jugnot. Vous ne jouez pas souvent au théâtre, mais quand vous jouez, ça dure longtemps. 300, 400, 500 représentations, un petit peu comme à l'époque de Maria Paco ou Jacqueline Maillan, ce qui devient très très rare aujourd'hui. Et vous aimez particulièrement les pièces inédites.
Oui.
Pourquoi les pièces inédites, ça peut être casse-gueule?
Oui, mais en même temps, il n'y a pas de comparaison possible.
Allez, pas juste pour ça.
Non, mais c'est vrai que ça m'a...
C'est-à-dire, si on vous propose de jouer l'avare, vous allez hésiter.
Ça a été joué des milliers de fois par des acteurs formidables. Je trouve assez prétentieux de dire, je vais donner mon interprétation. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. D'abord, je ne suis pas le meilleur spectateur pour ce genre de théâtre, parfois. Et ça nous parle moins qu'une pièce contemporaine, je trouve. En tant que spectateur, je trouve que Molière, c'est très bien écrit. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Mais disons, en tout cas, je n'ai pas ce fantasme ou ce désir.
Alors, une fois dans votre vie, Gérard Jugnot, vous avez écrit une pièce de théâtre. Une seule fois, vous l'avez écrite avec Michel Blanc. Elle avait pour titre « Espèce menacée ». Ça a été un carton. Pourquoi n'avoir pas réitéré une pièce de théâtre? C'est sans doute plus facile à monter qu'un film. Et puis vous êtes régalé avec votre camarade.
Non, en plus, d'abord, on n'a pas écrit la pièce. On a adapté une pièce de Ray Cooney.
Vous n'avez jamais écrit pour le théâtre?
Si, j'ai écrit, moi, des sketchs que j'ai joués dans un sketch qui s'appelait « Enfin seul ». Mais je n'ai jamais écrit vraiment seul. Mes films, je les ai toujours co-signés. J'aimerais bien savoir écrire des pièces, mais je ne me suis jamais réussi à le faire. Moi, je ne sais pas si je sais le faire, franchement. Et ça m'énerve parce que je gagnerais beaucoup plus d'argent. Parce qu'au théâtre, c'est l'auteur qui gagne le plus d'argent.
Va falloir réfléchir à ça cet été. On fait une pause, on retrouve tout de suite Gérard Jugnot.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin, depuis 15h, vous le savez. Gérard Jugnot parle de son actu, de son métier, de ses souvenirs au micro d'Isabelle Morizet. Et on les retrouve bien sûr pour la dernière partie de l'entretien.
Gérard Jugnot, si mes infos sont bonnes, Marie-Lou Berry, qui vous a dirigé dans la comédie qui sort en salle mercredi prochain et a pour titre « Quand on crie au loup », eh bien l'épatante Marie-Lou Berry rejoint le casting de Munch, la série qui fait fureur sur TF1 avec Isabelle Nanty. Le milieu du cinéma est donc de plus en plus présent à la télé. À quel genre de série, vous aimeriez participer? Des séries dans l'esprit du Bureau des Légendes sur Canal, du Baron Noir là où forcément on ne vous attend pas.
Ouais, moi j'adore ces séries. Et c'est sûr que je préférais faire une série dramatique qu'une série de comédie. La comédie, c'est difficile. Déjà, trouver une heure et demie drôle, bien trouver 6 heures. Mais moi, je veux dire que la série, c'est évidemment le truc à la mode, entre guillemets, en tout cas le truc de notre période, de notre époque. Et il y a de très bonnes séries, genre Le Bureau des légendes, Hippocrate, en France, hein, je parle de... Et puis là, je me régale avec la Kominsky méthode, le truc de Michael Douglas sur Netflix. C'est vraiment...
Bah alors, je voudrais savoir, on vous en propose des rôles dans des séries ou...
Non, c'est vrai que là, on m'a proposé peu de choses, puisque j'étais au théâtre depuis un an et demi. Vous voyez, le problème des séries, c'est qu'il ne faut pas être libre un mois, il faut être libre 6 mois.
Mais Netflix approche des réalisateurs et des acteurs français, ça vous amuserait de tourner pour l'international ?
Oui, mais il faut tourner en anglais, mon anglais n'est pas assez... très franchement, j'ai fait le plus gros. Non, j'ai envie de m'amuser, je sais pas.
J'ai fait le plus gros, dit-il.
C'est vrai que c'est des challenges qui sont... moi, j'ai tourné quelques fois en anglais. Là, j'ai fait l'année dernière le Fakir, coincé dans l'armoire Ikea, qui s'appelait La Fabuleuse Aventure du Fakir, où j'avais quelques scènes en anglais.
Ça donne quoi, l'accent ?
Mais c'était... beaucoup de travail.
Le coach est devenu chauve, c'est ça ?
Ouais.
Bon, Gérard Jugnot, hors période du Splendide, vous avez écrit et réalisé des films dont certains ont fait des records, enfin, co-écrit des films dont certains ont fait des records absolus d'audience quand ils ont été diffusés à la télé, comme par exemple Monsieur Batignol, 12 800 000 téléspectateurs du jamais vu. Allez-vous réaliser une série pour la télé ? Parce que là, je vous ai posé la question sur le fait de faire l'acteur, mais...
Mais c'est compliqué, parce que les réalisateurs de séries, si vous voyez bien, à part Rochand, qui est un showrunner, là, c'est souvent... ils sont plusieurs réalisateurs. Donc, en fait, le vrai réalisateur d'une série, c'est celui qui conçoit les arches, qui co-dirige tout. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de... Et un sens d'écriture différent, parce qu'il faut écrire ce qu'ils appellent ces arches.
Ouais.
Et il faut écrire...
Sur la distance, sur la longueur.
12 heures de fiction, c'est passionnant à jouer, passionnant sans doute à écrire, mais c'est un travail...
L'écrire, c'est guerre et paix.
Bah oui, considérable. Et il faut trouver des équipes, parce que ça ne s'écrit pas seul. Je ne suis pas sûr d'avoir le courage.
Bon, en attendant, Quant au cri au loup sort en salle mercredi. Vous y campez le grand-père d'un ado à l'imagination, j'ai envie de dire, infernal, qui va être le témoin de la cavale de deux braqueurs plus bêtes que méchants. Est-ce que vous avez amené en projection votre petit-fils, Célestin, qui a 6 ans et demi ?
Ben, je voulais l'emmener, puis avec mon fils, on a réfléchi et on s'est dit que, comme moi, je suis assez maltraité dans le film, je me prends même une balle dans le ventre à un moment, je ne meurs pas.
Il ne meurt pas, voilà.
Mais Arthur m'a dit, non, écoute, moi, quand j'étais petit, tu m'emmenais voir des trucs, ça m'avait traumatisé. Donc, il attend un peu.
Gérard Jugnot, vous nous l'avez dit au début de cette conversation, du cinéma pour optimiser le quotidien, pour glisser un petit peu de folie dans la gazaille ambiante. Mais Josiane Balasko et vous, vous doutiez absolument pas que, finalement, ça impacterait votre descendance. Elle avec Marie-Lou, vous avec Arthur.
Oui.
Quand vous avez commencé, ado, à jouer ensemble, extraordinaire de voir les projections qui se font.
Oui, c'est...
Allez, presque un demi-siècle plus tard.
Oui, c'est épatant, quoi, de regarder ça, de voir ça, de voir surtout le... Ce qui me plaît surtout, c'est l'enthousiasme de Marie-Lou et de mon fils aussi. Je crois que moi, ce qui m'a sauvé de mon caractère un peu gris, un peu maniaco-dépressif ou un peu mélancomique, c'est la passion que j'ai pour ce que je fais et pour mon métier qui m'a rendu très heureux. Et le fait de voir que mon fiston a ce même bonheur, ce même plaisir, ça me soulage parce que j'aurais été très, très malheureux de le voir... atone, sans passion, sans envie, sans enthousiasme.
Mais
ça, c'est une grande chance.
Dans son ADN, vous lui avez livré le talent aussi.
Ah, oui, enfin, ça, il se démerde avec ça.
Il se démerde très bien.
Oui. Non, mais non, c'est vraiment lui qui... Il a été dans un très bon cours, et puis là... Moi, j'étais inquiet, parce que c'est vrai que c'est pas parce que moi, je m'en suis sorti que lui s'en sortirait, et le fait de le voir comme ça, et de vite quand je l'ai fait tourner 2-3 fois comme ça, je lui ai dit oui, j'ai tout de suite pigé qu'il était fait pour ça, et ça m'a fait un grand soulagement.
Vous étiez rassuré.
Oui, oui.
Alors, cher Gérard Jugnot, avant de vous souhaiter un très très bel été. D'ailleurs, je ne sais pas s'il sera studieux ou paresseux.
À moitié.
Vous avez plein de projets ?
Oui, ça commence.
Alors, plein de projets, cinéma, théâtre,
cinéma,
production.
Le théâtre, ça va, j'ai donné pour un petit moment.
Bon, d'accord.
Mais non, là, je vais faire un film comme acteur, je vais faire un clin d'œil dans du Cobu, et puis j'ai des projets d'écriture de mise en scène.
Formidable. Alors, donc, avant de vous souhaiter un très bel été qui sera à demi-studieux, bah, juste cette question, qu'a-t-on oublié de se dire cette fois-ci?
Je sais pas.
On garde la suite pour la prochaine fois?
Oui. Enfin, on va se dire au revoir déjà.
On va se dire au revoir.
À bientôt.
À très bientôt. Je vous embrasse et je rappelle que Quand on crie au loup, film pour enfants mais pas que, sort mercredi, alors il ne faut pas le rater. Merci infiniment.
Surtout
Gérard.
Il fait frais dans les salles.
Oui, en plus c'est climatisé, le bonheur. À bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation dans laquelle vous pouvez vous replonger comme bon vous semble sur Europe1.fr grâce au replay et au podcast. Isabelle Morizet revient bien sûr demain dès 15h avec un nouvel invité, un grand reporter qui va nous parler d'un grand couturier. C'est Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde, qui publie une biographie de Karl Lagerfeld, un livre écrit comme un roman, qui raconte un monde, une époque, un destin. Bienvenue, si vous venez nous rejoindre dans un instant, on a rendez-vous avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs pour la rediff du week-end. Ils étaient invités à jouer le jeu cette semaine, l'écrivain Philippe Besson et puis l'un des derniers grands représentants du music hall, Marcel Amont. Restez avec nous. Europe 1.